Bien, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence aujourd'hui. Merci d'être venu. On est donc ensemble pour 6 semaines et le cours de cette année va être consacré à une question qui est en fait une question très, très simple à énoncer. La question, c'est à quoi ressemblerait notre monde si on vivait dans un espace, non pas à 3 dimensions, d'espace, mais à 2 dimensions seulement. Alors, c'est une question qui, en fait, s'est posée à de multiples reprises dans l'histoire intellectuelle. Peut-être le premier à avoir vraiment formalisé cette question, c'est en fait un auteur anglais qui était un pasteur, Edwin Abbott, à la fin du XIXe siècle, où il a écrit un livre, un petit livre qui est vraiment merveilleux, je vous le conseille à tous, qui s'appelle « Flatland », dans lequel, en fait, il se posait la question d'un point de vue sociologique, c'est-à-dire comment est-ce qu'une société composée d'êtres vivants pourrait se développer si ces êtres vivants étaient bidimensionnels, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils se reconnaîtraient entre eux, comment est-ce qu'ils s'organiseraient. Alors ensuite, on peut poser la question du point de vue biologique, est-ce que des êtres vivants pourraient développer un métabolisme à 2 dimensions ? C'est une question intéressante, je ne vais pas aborder cette question biologique. Et moi, je vais plutôt m'intéresser à la question de la physique, à savoir comment est-ce que les objets physiques qu'on connaît dans l'espace tridimensionnel, comment est-ce que ces objets pourraient se transposer dans un espace à 2 dimensions. Et là encore, c'est une question qui est ancienne. Hein. Le premier à l'avoir posée dans l'ère moderne, c'est Peierls, dans le courant des années 30. Et la manière dont Peierls formule la question, et qui est celle qu'on va aborder dans ce cours, c'est partant des objets qui sont des objets ordonnés, qui apparaissent à basse température à 3 dimensions, par exemple les cristaux, eh bien, est-ce que cet ordre qui apparaît à basse température, est-ce qu'il peut subsister si on était dans un espace bidimensionnel ? Alors, je parle d'objets ordonnés, donc les cristaux, c'en est un bon exemple. Un autre exemple qu'on peut considérer assez simplement, c'est les aimants, où vous avez une assemblée de particules qui portent toutes un petit moment magnétique. À haute température, ces moments magnétiques sont ordonnés de manière désordonnée. À basse température, à 3D, les aimants s'ordonnent pour former un matériau ferromagnétique. Eh bien, est-ce que cette transition de phase subsisterait si on vivait à 2 dimensions ? Alors, c'est une question qui est une question qui a l'air académique, comme ça, intéressante mais académique. En fait, il faut bien comprendre que ces objets à 2 dimensions, ils ont une importance pratique. Hein. On les rencontre dans pratiquement tous les objets de la vie quotidienne, tous les objets modernes. Si vous prenez n'importe quel objet électronique, il y a sûrement dans cet objet électronique, un téléphone portable, un pointeur laser, il y a sûrement quelque part un endroit où la physique se passe à 2 dimensions, c'est le domaine des puits quantiques en électronique, où vous contraignez le mouvement des électrons à bouger dans un plan. Ça permet de faire des diodes laser, ça permet de faire des photodétecteurs, ça permet de faire des composants électroniques avec un bruit réduit. Donc, rien que pour ça, la physique à 2 dimensions est vraiment importante sur le plan pratique. Un autre exemple où la physique à 2 dimensions joue un rôle, ça reviendra dans les séminaires qui vont suivre ce cours, j'en dirai un mot tout à l'heure, c'est les supraconducteurs à haute température critique. Ces matériaux qui ont été découverts dans les années 80, pour le moment, font encore l'objet de débats sur leur modélisation théorique précise, mais il y a une chose dont on est sûr, c'est que la conduction de l'électricité dans ces matériaux se fait essentiellement de manière bidimensionnelle, donc c'est important de comprendre cette physique des supraconducteurs à 2 dimensions si on veut comprendre ces supraconducteurs à haute température critique. Et puis un dernier exemple, dont on ne va pas beaucoup étudier cette année, mais j'en dirai un mot aujourd'hui quand même, c'est le graphène. Ces feuilles de carbone, donc des monocouches, sont des objets a priori bidimensionnels, et donc c'est naturel de se poser la question de comment est-ce qu'ils peuvent apparaître dans notre espace. Alors, le résultat de Peierls, donc dans les années 30, c'était un résultat qui était négatif. C'est-à-dire que Peierls, à la question est-ce que les objets ordonnés qu'on connaît à 3D peuvent exister à 2D, eh bien, Peierls avait apporté une réponse négative. C'est-à-dire que ce qu'avait montré Peierls, c'est que les fluctuations thermiques, si vous êtes à température non nulle, ou alors les fluctuations quantiques, si vous êtes à température nulle, eh bien, ces fluctuations jouent un rôle accru quand on baisse la dimensionnalité de l'espace. La raison pour laquelle ça se produit, c'est simplement, c'est tout bête, hein, et c'est ce qu'on va développer dans le cours d'aujourd'hui et ensuite dans les cours après, c'est que si vous êtes dans l'espace à peu de dimensions, 1 ou 2 dimensions, eh bien, finalement, vous avez moins de voisins que si vous êtes à 3D. Si vous êtes à 3D, c'est difficile pour un atome dans un cristal, par exemple, de ne pas se mettre là où il devrait être, parce qu'il se fâche avec tous ses voisins au-dessus, en dessous, à gauche, à droite, devant, derrière. Alors que si vous êtes simplement à une dimension, ben, finalement, il y a moins de frustration de la part des voisins, donc c'est plus facile de bouger, de se mettre en dehors de l'endroit qui devrait être assigné si on avait un état ordonné. Donc, Pyles avait montré comme ça que ces fluctuations empêchaient l'apparition d'un ordre à longue portée, similaire à celui qu'on rencontre à 3D, comme l'ordre cristallin. Et le résultat de Pyles, donc énoncé dans les années 30, avait été généralisé dans les années 60 par Mermin-Wagner d'une part et puis Hohenberg d'autre part, avec des hypothèses qu'on va rencontrer dans la suite du cours, qu'on va préciser. Donc, on restait, à la fin des années 60, sur un résultat finalement négatif, qui était passer de 3D à 2D ou à 1D, eh bien, finalement, ça fait perdre des choses intéressantes, c'est-à-dire que ça fait perdre les transitions de phase auxquelles on est habitué. Un fluide devient un solide cristallin à basse température. Et une question qui s'est donc posée au tournant des années 60-70, c'est est-ce que le résultat Pyles, Mermin, Wagner, Hohenberg, est-ce que ce résultat entraîne une absence complète de transition de phase? Alors là, je précise, les transitions de phase donc, à deux dimensions, pour des systèmes avec une symétrie continue, c'est le cas d'un fluide qui a une symétrie de translation, et quand il devient un cristal, il brise cette symétrie continue. Donc la question à la fin des années 60, c'était est-ce que le résultat énoncé par les gens que j'ai mentionnés entraîne l'absence complète de transition de phase? Et la réponse, qui est une réponse surprenante, a été apportée au début des années 70 par Kossolis et Thaulès dans un article célèbre qui s'intitulait donc Ordering Metastability and Phase Transition in Two-Dimensional Systems. Et ce qui m'a motivé en particulier pour faire ce cours cette année, eh bien, c'est que le travail de Kossolis et Thaulès, qui date donc du début des années 70, a été récompensé il y a quelques mois par le prix Nobel de physique. Le prix Nobel de physique 2016 a été attribué donc à ces trois personnes, Kossolis, Thaulès et Haldane, pour les découvertes théoriques des transitions de phase topologiques et des phases topologiques de la matière. Alors, il y a deux choses dans l'énoncé de ce prix Nobel. Le jury Nobel a mélangé deux notions qui, toutes les deux, se réfèrent à la topologie, mais qui sont néanmoins bien distinctes. La première, c'est ce qui va nous intéresser dans le cours de cette année, c'est le travail de Kossolis et Thaulès, qui sont les transitions de phase topologiques, c'est les transitions de phase qui remplacent la transition de phase habituelle qu'on rencontre à trois dimensions, un liquide devient un cristal. Et puis, il y a un autre élément dans l'intitulé du prix Nobel, qui sont les phases topologiques de la matière. Ça, je dirais, ça récompense peut-être plutôt le travail à la fois de Haldane et de Thaulès. Ces phases topologiques de la matière, eh bien, c'est des choses qui sont en lien avec les fluides quantiques, qui datent un petit peu maintenant, enfin, début des années 80, et puis des choses beaucoup plus récentes, qui sont les isolants topologiques ou les supraconducteurs topologiques qui ont été découverts au cours des 10 dernières années. Alors ça, je n'en parlerai pas dans le cours de cette année, de cette matière topologique, ça fera peut-être l'objet d'un cours du cours de l'an prochain, mais pour l'instant, pour le cours de cette année, on va se concentrer sur la première partie de la récompense Nobel, qui est donc ces transitions de phase topologiques, c'est le travail de Kossolis et Thaulès du début des années 70, et qui a ensuite été prolongé par beaucoup d'études qu'on va passer en revue. Alors, avant de commencer vraiment à faire de la physique, une question qu'on peut se poser, c'est donc pourquoi est-ce que la topologie apparaît? Qu'est-ce que la topologie vient faire là-dedans? Elle figure deux fois dans la phrase du jury Nobel. Qu'est-ce que la topologie vient faire là-dedans? C'est pas du tout évident, hein, parce que la topologie, c'est finalement une discipline mathématique assez abstraite, pour ceux qui l'ont étudiée à l'université. C'est essentiellement une discipline dans laquelle on cherche à établir des équivalences entre des objets différents. Ces équivalences, elles sont fondées sur la forme, c'est-à-dire qu'une forme prise au sens mathématique abstrait du terme, c'est-à-dire qu'une classe d'équivalence au sens de la topologie, eh bien, c'est des objets qu'on peut déformer les uns dans les autres de manière continue, sans passer par de singularités. Un exemple de classe d'équivalence topologique, qui va revenir dans un instant du point de vue de la physique, eh bien, c'est de considérer une surface fermée dans un espace à trois dimensions, par exemple une sphère, et puis la caractéristique topologique sera le nombre d'anses, le nombre de poignées de cette surface. Donc si je prends une sphère, bien sûr, elle n'a aucune poignée, donc je vais la mettre dans la boîte des surfaces topologiques à zéro poignée. Et puis si je prends un ellipsoïde, eh bien, je peux déformer mon ellipsoïde dans une sphère, et l'ellipsoïde ira lui aussi dans la classe à zéro poignée. Si je prends maintenant un tore, lui, ben, il a une anse, hein, il a un trou intérieur, tout comme une tasse de café ordinaire. Et donc ça, ça ira dans la classe topologique des objets à une poignée. Et puis, on peut imaginer une tasse un peu plus sophistiquée avec deux anses ou un double tore qui vont dans la classe G égale 2, etc. Donc voilà, ça c'est ce que la topologie a à nous offrir. Et le point important, qui va faire le lien avec la physique, c'est que donc, si je veux prendre un objet ici et puis le passer de la boîte G égale 0 à la boîte G égale 1, eh bien, le seul moyen de le faire, c'est en passant par une singularité. Et si donc je cherche, si j'évite ces singularités, eh bien, je peux dire qu'une classe donnée est protégée topologiquement, c'est-à-dire que je suis sûr de rester dans cette boîte-là si je ne passe pas par une singularité quelque part dans ma déformation. Alors, avant de parler du lien entre topologie et physique, je voudrais donner un intermédiaire qui est le lien entre topologie et géométrie. Ce lien entre topologie et géométrie, c'est quelque chose qui est connu depuis le milieu du XIXe siècle. C'est ce qu'on appelle le théorème de Gauss-Bonnet. C'est un théorème qui est, moi je le trouve absolument merveilleux, ce théorème, parce qu'il relie deux choses qui a priori n'ont rien à voir, et il les relie de manière vraiment très simple. Alors c'est quoi ce théorème de Gauss-Bonnet ? C'est la chose suivante. Si vous prenez une surface fermée, vous la supposez régulière et puis orientable pour qu'elle vérifie toutes les hypothèses du théorème. En tout point de cette surface, vous pouvez définir la courbure de cette surface. Alors, la courbure de cette surface, je ne vais pas rentrer dans la définition précise de la courbure, mais vous l'avez probablement vu dans des cours de mathématiques. Disons que c'est relié au rayon de courbure, rayon avec un S, au rayon de courbure locaux de la surface. Si vous prenez une sphère, là, c'est très simple, la courbure, simplement 1 sur R carré, où R est le rayon de la sphère. Je peux définir comme ça, en tout point d'une surface donnée, un tore, un double tore comme ça, je peux définir la courbure locale, qui va donc être une fonction grand oméga de petit r, le point de la surface. Eh bien, le théorème de Gauss-Bonnet nous dit la chose suivante. Si vous prenez l'intégrale de cette courbure sur toute la surface fermée, qui est régulière et orientable, eh bien, cette intégrale de la courbure est quantifiée. C'est-à-dire qu'elle va falloir toujours un nombre entier au facteur 1 sur 4 pi près. C'est-à-dire que vous prenez l'intégrale de la courbure, vous la divisez par 4 pi, eh bien, vous obtenez toujours un nombre entier. Et ce nombre entier a un lien direct avec les caractéristiques topologiques que j'énonçais avant, c'est-à-dire que ce nombre entier, c'est simplement 1 moins g, où g est le nombre de poignées de l'objet. Donc ça, c'est un lien fort entre la topologie qui est à droite, compter le nombre de poignées, et puis la géométrie qui est à gauche, la géométrie différentielle, qui consiste à prendre une fonction oméga de r, qui est une fonction continue dans l'espace, et à l'intégrer sur une surface fermée. Alors, ici, j'ai donné un exemple. C'est une figure que j'ai tirée de la page web du Scientific American. Vous voyez, ici, on déforme donc de manière continue, 100 mètres de singularité, une tasse en un tore. Eh bien, en tout point de cette tasse, vous pouvez définir une courbure. Alors, la courbure, elle sera nulle sur les parois rectilignes ici, et puis elle sera importante sur les bords. Vous prenez l'intégrale, vous trouvez un nombre entier, qui va en l'occurrence être 0, puisque c'est un objet de genre g égale 1. Donc, vous trouverez 0 quand vous prenez l'intégrale de la courbure. Et pendant toute cette évolution-là, jusqu'à aboutir à un tore bien régulier, eh bien, vous allez toujours trouver 0. Certes, la courbure en tous les points variera, mais son intégrale sera quantifiée, restera constante. Alors ça, une fois qu'on a vu ça, eh bien on se dit que ça peut tout de suite avoir des applications en physique. C'est-à-dire que si vous avez une quantité physique qui peut s'exprimer comme l'intégrale d'une courbure sur une surface ou une ligne fermée que j'appelle grand lambda ici. Si ma quantité physique peut s'écrire donc comme l'intégrale d'une fonction oméga de lambda sur cette surface fermée, eh bien je sais que cette quantité physique sera protégée topologiquement, tout comme l'était le nombre de poignées de mon objet. Tant que je ne ferai pas de déformation violente, où j'aurai des singularités qui apparaîtront, eh bien cette quantité restera constante. Alors ça, c'est précisément ce qui se produit dans l'effet Hall quantique, par exemple. Dans l'effet Hall quantique, vous prenez l'intégrale d'une courbure, c'est ce qu'on appelle la courbure de Berry, introduite par Michael Berry. Vous la prenez sur une surface fermée, parce que vous la prenez sur la zone de Brillouin d'un cristal. La zone de Brillouin d'un cristal a la structure d'une surface fermée, à cause des conditions limites périodiques à l'intérieur de cette structure. Et donc la conductivité de l'effet Hall quantique peut s'exprimer exactement comme s'exprimait le nombre de poignées de ma tasse de café. C'est donc une quantité qui va être robuste topologiquement, c'est-à-dire que si je mets de la perturbation, si je mets du désordre, eh bien, cette conductivité restera la même, indépendamment du fait que j'ai mis une perturbation du désordre. Alors c'est important pour l'aspect conceptuel, c'est agréable de sortir comme ça des choses qui sont quantifiées, non pas une quantification comme la trajectoire des électrons à l'intérieur d'un atome, mais une quantification à une échelle beaucoup plus macroscopique. Et puis, c'est également important pour l'aspect pratique, parce que puisque ça concerne des objets macroscopiques, eh bien, ça permet de réaliser comme ça des standards macroscopiques, parce qu'ils sont protégés topologiquement, on sait qu'ils seront invariants si je prends une réalisation dans un laboratoire puis une réalisation légèrement différente dans un autre laboratoire, et vous savez probablement tous que les foils quantiques jouent un rôle essentiel dans la définition des unités électriques, par exemple. Et ça, c'est grâce à cette protection topologique qu'on peut avoir comme ça des choses qui sont macroscopiques, des échantillons qui sont macroscopiques, mais néanmoins robustes d'une ville à l'autre sur la planète. Voilà, donc ça, c'était pour dire très généralement à quoi ressemblait cette protection topologique en physique. Et ce qui va nous intéresser à partir de la semaine prochaine, eh bien, c'est cette transition de Kossoff-Saulès, c'est donc cette topologie qui va apparaître dans un gaz de Bose à deux dimensions, puisqu'on va s'intéresser essentiellement à ça dans ce cours, c'est-à-dire un fluide quantique qui bouge dans le plan XY, et on va donc regarder comment est-ce que les idées de Kossoff-Saulès, ces idées de transition de phase topologique peuvent apparaître. Alors, on va donc considérer, à partir de la semaine prochaine, un fluide de particules quantiques de masse M. Ce fluide obéit à la statique de Bose-Einstein. On va supposer, mais on va le justifier, qu'on peut décrire ce fluide par un champ classique, complexe, une sorte d'onde de matière, si vous voulez, mais ce sera valable, donc, à quelle que soit la température du fluide. On va donc le décrire par un champ complexe, ψ de R, où R est donc la fonction, enfin, les deux variables x, y, égale la racine de la densité du fluide, racine de ρ de R, fois un facteur de phase et puissance iθ de R. Et cette fonction ψ de R est monovaluée, c'est-à-dire qu'en un point R donné de l'espace, eh bien ce champ d'onde de matière prend une valeur et une seule. Donc le E puissance iθ doit être monovalué, ce qui veut dire que la phase θ de R est définie modulo 2π en n'importe quel point de l'espace, pourvu évidemment que la densité soit non nulle. Si jamais la densité ρ de R est nulle, ben la phase n'est pas définie. Mais si je me place en un point où la densité est non nulle, à ce moment-là, la phase est définie modulo 2π. Et cette notion de phase définie modulo 2π, eh bien, ça vous donne presque immédiatement un invariant topologique, au même sens que le théorème de Gauss-Bonnet que j'ai énoncé tout à l'heure. Si vous prenez dans le plan XY, donc le plan dans lequel évolue mon fluide, un contour fermé, comme celui que j'ai dessiné ici. Et puis vous partez d'un certain point de ce contour ici, par exemple. Vous prenez donc la phase, je suppose que ma densité ρ de R ne s'annule pas sur ce contour. Hein, donc la phase est définie sur n'importe quel point de la ligne, ici. Vous prenez la phase qui est ici, vous trouvez une certaine valeur. Vous prenez la phase qui est juste à côté. Vous calculez l'incrément, donc θ2 moins θ1, donc ici c'est θ1, ici θ2. Calculez l'incrément θ2 moins θ1. Puis vous prenez un autre point, θ3 moins θ2, etc. Et vous prenez comme ça donc la somme de tous les petits éléments, toutes les petites différences de phase sur des petits segments. Et vous faites un tour complet et vous revenez. Eh bien, ce que vous pouvez voir tout de suite, puisque la phase est définie modulo de π, c'est que la somme de tous ces petits éléments, multipliée par dr, va vous donner, donc l'intégrale de gradient θ de r dr, vous donnera, pas forcément 0, parce que, encore une fois, la phase est définie modulo de π, mais 2π fois un entier. C'est-à-dire que je ne peux pas trouver autre chose que 2π fois un entier, sachant que je pars d'un point et je reviens au même point après avoir fait un tour comme cela. Donc, vous avez immédiatement un bonus de cette description en termes de champ classique ψ de R de mon fluide, c'est que vous avez un invariant topologique qui apparaît, qui est l'intégrale du gradient de la phase sur n'importe quel contour fermé, pourvu que la densité ρ de R ne s'annule pas sur ce contour, parce que je veux que la phase soit bien définie. Voilà, donc ça c'est, je dirais, presque, ça vient, comme j'ai dit, un bonus, ça vient immédiatement avec cette description en termes de ψ de R. Alors ça a l'air très mathématique, dit comme ça, mais ça se transcrit immédiatement en termes physiques, parce que quand on prend une onde de matière comme ça, qui est donc en épuissance iθ, eh bien la première chose qu'on apprend en mécanique quantique, presque, c'est le courant de probabilité, et on apprend qu'il y a un champ de vitesse associé à une fonction d'onde. Ce champ de vitesse V de R, c'est simplement, au coefficient multiplicatif h bar sur m près, le gradient de la phase. Donc, dire que la circulation du gradient de la phase est quantifiée en multiple n fois 2π, eh bien, ça revient à dire que quand vous prenez un champ d'onde de matière décrit par un ψ de R, eh bien, la circulation de la vitesse sur n'importe quel contour fermé sur lequel, encore une fois, la densité ne s'annule pas, eh bien, cette circulation de la vitesse est également quantifiée et sera donc un entier petit n fois 2π h bar sur n. Voilà. Et donc ça, c'est là où la topologie va apparaître de manière naturelle dans cette description d'un champ d'onde de matière. Alors, j'ai toujours dit qu'il fallait que la densité ne s'annule pas pour avoir cette chose-là. Comment est-ce que je fais pour trouver un n non nul ici, hein? Eh bien, supposons que j'ai précisément un point où la densité s'annule. Supposons que la densité s'annule en x égale y égale 0. Et la manière dont je vais l'annuler, ma densité, c'est en mettant en x égale y égale 0 un x plus y ou un x moins y fois une fonction qui, elle, ne s'annule pas de racine de x2 plus y2, donc du module carré du champ. Et à ce moment-là, le psi de R que je vais construire si je prends cette forme-là, le psi de R que je vais construire autour, là, donc sur mon contour C, eh bien, x plus y, si je passe en coordonnées polaires, je peux l'écrire R fois et puissance plus ou moins ifi, fois cette fonction f de R2. Et ce que vous voyez immédiatement, c'est que si vous prenez un psi de R qui est comme ça, et si vous regardez le gradient de la phase, l'intégrale du gradient de la phase que je vais avoir en tournant autour du point O, eh bien, selon que je prends le signe plus ou le signe moins ici, eh bien, j'accumulerai une phase qui vaudra plus de pi ou moins de pi. Donc, voilà un moyen de créer des intégrales sur ces contours qui sont non nulles, simplement en mettant un zéro du champ, un zéro simple, c'est-à-dire un zéro sur lequel le champ s'annule de cette manière-là, en x plus y ou en x moins y. Et ça, eh bien, ces structures-là, c'est ce qu'on appelle des vortex quantiques ou des tourbillons quantiques. Ce seront les objets élémentaires qu'on va introduire dans notre théorie à la cosmologie de Sawallès. Alors, ces vortex, j'insiste, au même titre que l'anse de ma tasse, ce sont des objets qui sont protégés topologiquement. C'est-à-dire que si je prends un champ d'onde psi de R, donc, avec un vortex ici en zéro, donc un point où la densité s'annule et autour duquel la phase tourne de 2π quand je fais le tour, donc là j'ai pris x plus y, eh bien cet objet-là, ici, ce champ représenté, enfin j'ai représenté le module du champ en fonction de xy, il n'est pas topologiquement équivalent au même champ, mais dans lequel j'ai enlevé le vortex. C'est-à-dire que je ne peux pas, par une déformation continue non singulière de ce champ-ci, faire apparaître le vortex. En particulier, si je m'intéresse au lien entre ce champ-là, un petit peu chahuté, et puis le champ que j'obtiendrais si j'avais quelque chose de parfaitement ordonné, c'est-à-dire un champ uniforme, un psi de R égale 1 dans tout l'espace, eh bien, je peux, par une simple déformation topologique, passer de là à là. Hein, vous pouvez voir ça, finalement, comme une chemise un peu froissée. Et puis la question, c'est est-ce que quand vous avez une chemise froissée, vous pouvez la rendre bien lisse ? Eh bien oui, vous pouvez, avec votre fer à repasser, passer de là à là de manière continue. Donc on peut dire que ces deux objets-là, certes, ne sont pas rigoureusement les mêmes, mais ils sont topologiquement équivalents. Je peux éliminer les fluctuations de ce champ ici pour passer au champ complètement nul. Alors que quand j'ai un vortex avec cet enroulement de phase de 2π ou de moins 2π autour, eh bien ça, je ne peux pas l'enlever. En d'autres termes, si vous avez une chemise qui est froissée, mais qui a également un nœud sur une manche, avec votre fer à repasser, vous avez beau repasser le nœud, il ne va pas se défaire. Donc là, vous pouvez voir que vous pouvez considérer que le vortex, c'est comme le nœud sur une manche. Il faut faire une manipulation beaucoup plus violente pour l'éliminer que simplement un repassage qui élimine ces fluctuations douces. Et la transition de Coase-Sawallès, donc qu'on va étudier abondamment dans les cours qui vont venir, eh bien, c'est précisément ça. Cette transition elle consiste à regarder ce qui se passe, ce qui arrive à ces petits défauts topologiques que sont les vortex dans un champ à deux dimensions. Alors, cette transition de Coase-Sawallès, donc elle a été proposée par Coase-Sawallès en 1973, il y a eu des travaux précurseurs de Berezinski, un physicien soviétique, 2 ans avant. Berezinski n'avait pas compris tout ce qu'ont compris Coase-Sawallès, mais néanmoins, il avait déjà eu l'intuition de beaucoup de choses. Donc, Berezinski est mort prématurément, il est mort en 1980, donc il n'a pas eu le prix Nobel, en particulier l'an dernier. Mais traditionnellement, on associe les trois noms, et donc je parlerai dans tout ce cours de mécanisme BKT pour Berezinski, Coase-Sawallès. Voilà. Et donc cette transition BKT, eh bien, elle fait précisément intervenir ces petites briques élémentaires qui sont les défauts topologiques, en l'occurrence, pour mon champ d'onde de matière, les vortex. Alors ces vortex sont toujours présents, dès que la température est non nulle, mais à basse température, leur seule manière d'être présent, c'est sous forme appariée. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez trouver un vortex que j'ai dessiné en rouge, qui est un vortex avec un enroulement de phase de plus de pi, eh bien, vous avez dans un voisinage immédiat un vortex avec un enroulement de phase de moins de pi. Ce qui veut dire que si vous regardez votre champ d'onde de matière avec une résolution qui n'est pas trop bonne, une sorte de moyenne à gros grains, si vous voulez, eh bien, en fait, ces choses-là, vous n'allez pas les voir. C'est-à-dire que vous pouvez les ignorer. Le repassage dont je parlais tout à l'heure pour ma chemise froissée va fonctionner. Donc cette chose-là, vous pouvez la voir comme étant grosso modo équivalente à un champ d'onde de matière sans vortex du tout. Donc c'est un état qui topologiquement est ordonné, même s'il ne l'est pas vraiment, parce qu'il y a quand même des vortex. Et puis quand vous augmentez la température, et c'est donc ça qu'ont compris BKT, c'est qu'il y a une température critique à laquelle la distance entre les deux membres de la paire tend vers l'infini, donc les paires se dissocient, la distance moyenne entre les deux membres de la paire tend vers l'infini, les paires se dissocient, et vous avez à ce moment-là un plasma dans lequel vous avez des vortex positifs et des vortex négatifs qui vivent chacun leur vie, et à ce moment-là, eh bien, vous perdez complètement l'ordre, vous avez un état qui est désordonné, qui ne peut pas être topologiquement remis sur l'état qui serait un champ complètement uniforme. Voilà. Donc c'est cette transition topologique qui va faire l'objet de cette série de cours. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire pendant ces six séances ? Eh bien, dès aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre en place tous les outils pour comprendre le résultat de Peierls. Et puis ensuite, eh bien, on essaiera d'analyser le mécanisme BKT sur le cas du gaz de Bose et des vortex. Et on fera donc des développements théoriques au cours de ces séances. On essaiera aussi de voir pas mal de systèmes physiques sur lesquels ces choses-là ont été vues, plusieurs exemples de systèmes bidimensionnels. Aujourd'hui, on verra les liquides colloïdaux qui ont été étudiés beaucoup dans le groupe de Constance de Maret et Keim. On verra des transitions vues sur des photons dans des cavités électromagnétiques. On verra des expériences faites sur des films d'hélium liquide, sur des gaz atomiques, des bosons ou des fermions, et également sur ces particules qui sont des particules hybrides lumière-matière, qui sont les polaritons de cavité. Voilà. Donc vous verrez un panorama assez vaste donc de systèmes physiques sur lesquels on a pu voir ces transitions. Alors, comme chaque année, hein, il y a des documents qui sont mis en ligne, qui sont à la fois les notes de cours, celles que j'ai distribuées, enfin, que vous avez probablement prises à l'entrée. Également, toutes les copies des diapositives qui sont montrées sont disponibles en ligne, donc c'est sur ma page web qui est ici. Ce qu'on a mis en place cette année, c'est une liste de diffusion. Donc, si vous voulez recevoir les annonces concernant ce cours, vous pouvez vous inscrire à cette liste de diffusion. Il suffit d'envoyer un mail avec comme sujet subscribe, share AR pour atomes et rayonnements, at Institut de physique du Collège de France, enfin IPCDF. Et puis, comme évidemment chaque année, le plus important, ce sont les séminaires, enfin, au moins aussi important que le cours. Et donc voilà la liste des séminaires qu'on va avoir cette année. Il y aura donc 6 séminaires associés à chacun des cours. Ces séminaires auront deux rôles selon les cas. Ça pourrait être des choses qui illustrent directement le mécanisme de Kosolis-Sawless. Ce sera le cas du séminaire fait par Thierry Jamarki, par exemple, qui s'intéressera aux supraconducteurs. Ce sera le cas en partie du séminaire de Tillmann Pfau, qui s'intéressera aux gaz dipolaires. Ce sera le cas du séminaire d'Isabelle Bouchoul, qui parlera de physique à une dimension. Je vais surtout parler de physique à 2D, mais Isabelle parlera de physique à 1D. Et puis, on aura des séminaires qui seront plus généraux, donc axés sur des concepts généraux de physique quantique et légèrement au-delà. Et en particulier, dès aujourd'hui, on aura le plaisir d'entendre Yves Couder qui nous parlera d'une dualité onde-particules à échelle macroscopique, le rôle d'une mémoire. Voilà. Et ce sera suivi la semaine prochaine d'un séminaire de Klaus Molmer sur l'ingénierie d'état quantique et un séminaire ensuite d'Alexis Aufèvre sur une nouvelle interprétation de la physique quantique, contexte, système et modalité. Alexia nous décrira ça, c'est quelque chose qu'a développé avec Philippe Grangier. Voilà, donc ça c'était une introduction générale à ce cours, et je voudrais maintenant donc aborder le premier cours qui va être consacré finalement aux arguments de Peierls, les arguments que Peierls avait développés dans les années 30, à leur généralisation par Marvin Wagner et Hohenberg dans les années 60, et puis des expériences récentes qui ont illustré ces concepts. Donc, commençons par l'argument de Peierls, et on va commencer par quelque chose de très simple, qui est directement tiré d'un article de Peierls, qui est ce qui se passe à une dimension, et ce qui se passe à une dimension vu de manière très heuristique, c'est ce que j'ai appelé l'empilement de défauts. Donc, je considère une chaîne d'atomes que je vais décrire classiquement. D'accord ? Là-dedans, pour l'instant, il n'y a pas de mécanique quantique dans ce que je vais dire. Je prends une chaîne d'atomes, je suppose que ces atomes interagissent par un potentiel binaire. Ce potentiel U de X en fonction de X est un potentiel qui a donc un attractif à longue portée, répulsif à courte portée, avec un minimum en X égale A. Et ce potentiel, eh bien, je le caractérise essentiellement par sa courbure au voisinage de x égale a, donc ce que je vais appeler kappa, des 2x sur dx2, c'est ce qui me donne finalement, ce qui va me déterminer avec la masse des atomes, la période des petites oscillations au fond de ce puits. Donc si je me mets à température nulle, eh bien, l'état du système, encore une fois, je suis en physique classique, là, il n'y a pas de fluctuation quantique, donc à température nulle, l'état du système, c'est de mettre un atome tous les A, c'est une rangée de perles parfaitement alignées, comme ça, donc j'ai 0A, 2A, un atome comme ça. Maintenant, supposons que la température soit non nulle. À ce moment-là, si pour fixer les idées, je mets l'atome 0, l'atome J égale 0 en X0 ici, et si je me demande où est-ce que je peux trouver l'atome 1, donc l'atome qui serait normalement en X égale A s'il n'y avait pas de fluctuation thermique, eh bien la position de l'atome 1, X1, ce sera la position de l'atome 0 plus A, plus une petite fluctuation, que je vais noter delta 1. Et si donc je linéarise ou je quadratise ce potentiel au voisinage de son équilibre, et puis si j'applique le théorème des q-partitions, eh bien ce que je peux dire, c'est que la valeur moyenne de delta 1 sera nulle et que la variance de delta 1 sera proportionnelle à la température, kT, et puis inversement proportionnelle à la raideur kappa du potentiel, ici, au voisinage de la position d'équilibre. Alors, j'ai mis un à peu près égal ici, parce que là, je me contente d'empiler les défauts, comme je dis, c'est-à-dire je pars de l'atome 0, puis je regarde ce qui arrive à l'atome 1 vis-à-vis de l'atome 0. En fait, l'atome 1, il est aussi concerné par ce qui se passe sur l'atome 2, et aussi l'atome 2 est lui-même concerné par ce qui se passe sur l'atome 3, mais ça, je le regarderai après. Pour l'instant, je fais un raisonnement vraiment très simple, donc le raisonnement plus rigoureux sera fait dans quelques minutes. Donc, mettons-le comme ça, et donc je dis delta 1 carré est sûrement proportionnel à la température et inversement proportionnel à la kappa. X2, de la même façon, je l'écris X1, je le repère par rapport à l'atome X1, plus A, plus delta 2, et puis l'atome XJ sera XJ-1, plus A, plus delta J, et toutes les variances des delta J carré sont toutes les mêmes en KT au numérateur et divisées par la raideur. Donc si maintenant je regarde où est l'atome J par rapport à l'atome 0, eh bien, il est en X0 plus JA, ça c'est ce qu'il devrait avoir à température nulle, plus un grand delta J, et le grand delta J, c'est simplement empiler tous les défauts que j'ai accumulés ici, delta 1, delta 2, delta J, et j'ai donc une somme de variables aléatoires qui sont a priori indépendantes, donc j'additionne les variances, et je trouve donc que delta J carré, c'est simplement KBT sur kappa fois petit J. Et une fois que j'ai ça, eh bien, je comprends tout de suite pourquoi un cristal ne peut pas exister à température non nulle, puisque dès que je vais prendre un J assez grand, en particulier dès que je vais prendre delta J carré qui va être supérieur à A carré, donc dès que ma variance totale va être supérieure à le carré de la période du cristal que j'attends, en d'autres termes, une fois que j'ai écrit ça, dès que J est supérieur à kappa A carré sur kT, eh bien, je ne saurai absolument pas où se trouve l'atome J, même si je sais parfaitement où se trouve l'atome 0, c'est-à-dire que la position de l'atome J sera complètement indéterminée à l'échelle de la maille cristalline. Donc j'aurais perdu toute information de l'ordre que je pouvais attendre à température nulle. Eh bien, à température nulle, cet ordre aura disparu, c'est-à-dire que je ne saurais pas du tout où se trouve l'atome J, même si je sais parfaitement où se trouve l'atome 0. Donc cette croissance linéaire des variances, là, eh bien, c'est le signe d'une perte rapide de l'ordre. C'était ça l'argument essentiel de Peierls. Alors, ça, c'est quand même un argument très, très heuristique d'empiler des défauts comme ça. Et puis en particulier, on sent bien que ça va être difficile de le généraliser à deux dimensions, voire à trois dimensions, hein, puisque là, je me suis contenté de regarder l'atome de gauche. Pour l'atome J, je regardais l'atome J-1. Bon, ça allait bien à 1D, mais si maintenant vous voulez faire ça à 2D ou à 3D, ça va pas être possible. Donc, on va maintenant passer à quelque chose d'un tout petit peu plus sophistiqué comme résolution du problème, cette résolution, elle se généralisera naturellement à 2D et 3D. Donc, c'est ce qu'on appelle le cristal harmonique. Vous le trouverez dans beaucoup de livres de physique des solides, donc je vais vous donner les grandes lignes sans faire tous les calculs en détail. Ils sont faits d'ailleurs dans les notes, hein, si vous voulez vraiment les refaire. Donc je prends un cristal contenant n atomes, je prends des conditions limites périodiques, ça rend les calculs beaucoup plus simples. Donc j'ai un atome 1, un atome 2, un atome 3, jusqu'à un atome n que j'identifie avec l'atome 0, ça revient finalement à mettre mes atomes sur un cercle. Et puis à température nulle, j'attends donc un arrangement régulier comme ça, et à température non nulle, eh bien, je vais appeler petit u1 le déplacement de l'atome 1 par rapport à sa position d'équilibre, u2 le déplacement de l'atome 2, u3 le déplacement de l'atome 3, etc. Et l'énergie du système, eh bien, c'est donc, comme toujours, la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. L'énergie cinétique, c'est la somme des 8 points carrés, avec un demi de m devant. Et puis l'énergie potentielle, donc c'est l'énergie liée au potentiel d'interaction, je la quadratise au voisinage de la position d'équilibre. Donc, l'énergie de la paire Uj, Uj plus 1, ce sera simplement kappa sur 2, Uj plus 1 moins Uj au carré. Alors, pour écrire ça, ce que j'ai supposé, bien sûr, c'est que j'avais le droit de quadratiser mon potentiel. Donc, j'ai supposé que Uj plus 1 moins Uj était petit devant petit a. C'est ce qui m'autorise à faire le développement limité du potentiel au voisinage de la position d'équilibre. En revanche, j'insiste bien sur le fait que je n'ai pas supposé que le déplacement Uj était petit devant petit a. C'est-à-dire que l'atome J peut être déplacé beaucoup par rapport à ce que serait la position d'équilibre. L'atome J plus 1 aussi, simplement, J et J plus 1 restent voisins l'un de l'autre. C'est-à-dire que localement, j'ai une sorte d'ordre, c'est-à-dire que localement, la distance entre un atome et son voisin est d'ordre petit a, mais en revanche, encore une fois, je n'ai pas d'ordre à longue portée, donc ça veut dire que l'atome J peut être déplacé beaucoup par rapport à ce que serait sa position d'équilibre à température nulle. Alors, ayant cette énergie pour le système, c'est facile d'écrire les équations du mouvement, pour utiliser le formalisme lagrangien, hamiltonien, celui que vous préférez, et les équations du mouvement, donc encore une fois, vous les trouvez dans tous les livres de physique des solides, elles s'écrivent sous cette forme-là, petit m, la masse d'un atome, dérivée seconde de Uj égale kappa fois Uj lui-même, ici, avec un facteur moins 2, et puis les deux voisins, Uj plus 1 et Uj moins 1. Là, je ne me contente pas d'empiler les défauts, je prends bien en compte l'interaction de l'atome J avec ses deux voisins, celui de gauche et celui de droite. Alors, comment résoudre ces équations du mouvement ? Ben, le plus simple, c'est de passer en point de vue de Fourier. Si vous voulez, ça consiste à développer les perturbations, les petits déplacements Uj en ondes planes. Donc, j'introduis Q, le vecteur d'onde Q. Je devrais plutôt l'appeler nombre d'ondes, parce que je suis à une dimension, mais ce sera un vecteur d'onde à 2D, à 3D. J'introduis donc ce nombre d'ondes ou ce vecteur d'onde Q, et j'appelle UQ chapeau, la transformée de Fourier d'Uj, pour le nombre d'ondes Q, donc 1 sur racine de n, somme des J des puissances IQ grand XJ. XJ, c'est grand XJ, c'est juste la position d'équilibre de l'atome J, moins IQ XJ fois UJ. Et quand on fait ça, donc, le nombre d'ondes est quantifié, il varie entre moins pi sur A et pi sur A par pas de 2 pi sur NA. Et pour chaque nombre d'ondes, eh bien, j'ai une équation de mouvement qui est indépendante. C'est l'intérêt de passer en point de vue de Fourier, c'est que vos grand N équations couplées se transforment en grand N équations indépendantes du type dérivée seconde de UQ chapeau plus oméga Q carré UQ égale 0. Et donc, quand on fait ça, on voit apparaître donc, des pulsations oméga Q associées au nombre d'ondes Q. Et la valeur d'oméga Q, là encore, je saute quelques étapes de calcul, mais ce n'est vraiment pas méchante. Oméga Q, c'est 2 fois racine de kappa sur M fois sinus QA sur 2. Donc ça fait intervenir finalement les trois paramètres du problème. Kappa, la raideur du potentiel, M, la masse d'un atome, et petit a, la période du réseau à température nulle. Alors, ce qu'on va être souvent amené à faire, c'est linéariser cette relation de dispersion, cette relation qui relie nombre d'ondes et fréquences. Si je prends QA sur 2 petit devant 1, ben, je peux remplacer le sinus par son argument, et à ce moment-là, j'obtiens une relation de dispersion linéaire, oméga Q égale C fois valeur absolue de Q. Une relation de dispersion linéaire, ça correspond à des ondes sonores, des phonons, et la valeur de la vitesse du son, petit c, fait intervenir, encore une fois, ces trois paramètres du problème, petit a fois racine de kappa sur m. Voilà, donc on a su résoudre les équations du mouvement de ce cristal unidimensionnel, pourvu qu'on ait pris des conditions limites périodiques qui simplifient bien les choses. Maintenant, quelle est la thermodynamique de ce problème ? Comment est-ce que je peux retrouver le résultat de Peierls de manière un petit peu plus précise, un petit peu plus quantitative, avec ce formalisme ? Eh bien, l'idée, ça va être de revenir dans l'espace des positions. Je suis passé dans l'espace de Fourier pour trouver les équations de mouvement. Maintenant, je reviens dans l'espace des positions. Donc, je prends l'atome 0, il a son déplacement U0 par rapport à sa position d'équilibre. Je prends l'atome J, il a son déplacement UJ. Et je vais m'intéresser à la quantité UJ moins U0. Et je vais regarder comment est-ce que cette quantité, sa valeur moyenne, sa variance, comment est-ce qu'elles évoluent en fonction de la distance entre l'atome 0 et l'atome J. Donc Uj, c'est simplement la somme des puissances IQJ fois UQ. U0, c'est la somme des 1, puisque je prends XJ égale 0 pour U0, les sommes des 1 UQ, donc la différence Uj moins U0, ce sera ça, et puissance QXJ moins 1 fois UQ, avec un 1 sur racine de n devant, qui vient de la transformée de Fourier. Et puis, je vais prendre donc des moyennes à l'équilibre thermique. Alors, à l'équilibre thermique, j'ai vu que les UQ avaient tous des équations d'évolution indépendantes. Hein, c'était l'équation d'évolution qui était... Pardon, je suis revenu trop loin en arrière. C'était ces équations d'évolution-là. Donc, les UQ sont des variables indépendantes. Donc tous les Q sont indépendants ici, en particulier leur valeur moyenne à l'équipe thermodynamique est nulle, mais leur variance ne va pas être nulle. Et comme ils sont décorrélés les uns des autres, eh bien, si je prends UQ, UQ', alors là je mets une étoile pour avoir... Les UQ sont des quantités complexes, donc il vaut mieux faire attention aux complexes conjugués. Donc je prends UQ, UQ' étoile, ça vaut 0 dès que je prends deux modes différents, Q différent de Q'. Et puis, la variance est non nulle à l'équipe thermodynamique, donc là, ça c'est l'équipartition d'énergie, mais exacte de ce point de vue-là. 1,5 de M oméga Q carré UQ carré, valeur moyenne thermique, égale 1,5 de KT. Donc UQ carré, cette variance, hein, est proportionnelle à la température et inversement proportionnelle au carré de la pulsation oméga Q. Alors, injectons ça dans la quantité qui m'intéresse, qui est donc la différence entre les écarts de l'atome 0 et de l'atome J. Donc en valeur moyenne, UJ moins U0 sera nul, puisque tous les UQ sont nuls. Mais quand je prends le carré de UJ moins U0, donc je vais voir apparaître, quand je vais prendre le carré de cette somme, je vais voir apparaître des termes directs qui seront les UQ carrés, et puis des termes croisés qui seront des UQ, UQ'. Les termes croisés seront nuls à cause de cette relation-là, donc il me restera simplement les termes directs. Et quand je fais donc le calcul, là encore une fois, je saute quelques étapes, mais c'est assez facile de voir ce qui se passe. Le 1 sur racine de n au carré m'a donné le 1 sur n. Les UQ carrés ici, j'ai dit, sont proportionnels à la température KBT divisé par M, donc j'ai le KT sur M qui apparaît en facteur. Ensuite, j'ai le oméga Q carré qui dépend de Q, donc je le laisse dans la somme sur Q, 1 sur oméga Q carré. Et puis enfin, il y a un petit exercice de trigonométrie qui consiste à prendre le module carré de cette quantité-là. Et le module carré de cette quantité-là, bah, ce n'est pas bien méchant à faire, vous allez trouver que c'est 4 fois, c'est le 4 qui est là, sinus carré de QXJ, l'argument ici, divisé par 2. Voilà. Donc là, faites-moi confiance, mais c'est de la trigonométrie élémentaire. Voilà, et donc là, on se retrouve avec une somme à calculer, et quand on aura calculé cette somme, eh bien, on sera capable de dire si l'argument de l'empilement de défaut est correct ou pas, c'est-à-dire si effectivement cette quantité-là diverge linéairement avec petit j, la distance entre l'atome 0 et l'atome j. Alors, pour calculer cette somme, il faut remplacer la somme discrète par une intégrale. Ça, je vais peut-être juste l'indiquer au tableau, je ne l'ai pas mis sur la diapositive, mais c'est quelque chose que je vais être amené à faire souvent, donc peut-être aussi bien si je l'écris au tableau. Donc, je vous rappelle que les Q sont quantifiés, hein, ils commencent à la valeur moins pi sur A, et puis ensuite j'ai un moins 2 pi sur n, pardon, moins 2 pi sur na, 0, plus 2 pi sur na, comme ça jusqu'à plus pi sur a. C'est-à-dire que l'écart entre deux valeurs consécutives, ils sont écu répartis, hein, et l'écart entre deux valeurs consécutives, c'est donc 2 pi sur na. Et donc, quand vous avez à prendre une somme sur q d'une certaine quantité f de q, eh bien, on peut passer à une intégrale sur Q, une intégrale sur dq de cette même quantité f de Q, avec une intégrale qui va donc aller de moins pi sur A à plus pi sur A, et puis un facteur de normalisation qui sera donc l'inverse de l'écart entre deux valeurs de Q, qui sera donc ce na, j'écris bien, sur 2 pi. Et on sera amené à faire la même chose à deux dimensions et à trois dimensions. Et à ce moment-là, donc, ce que j'aurai à prendre, c'est une somme sur Q qui sera un vecteur d'onde. Donc je serai amené à prendre des F de Q. Et ça donnera, donc, si je suis à deux dimensions, par exemple, Na sur 2π au carré, fois une intégrale, alors ce sera une intégrale double cette fois-ci, sur dQx, dQy de F de Q vecteur. Et cette intégrale, elle porte sur ce qu'on va appeler une zone de Brillouin, c'est-à-dire ce que j'appelle une zone de Brillouin, c'est simplement l'intervalle moins pi sur a, fois la même chose, moins pi sur a. Donc à chaque fois que j'aurai des sommes discrètes sur Q, qui porteront sur des quantités f de Q qui varient doucement, eh bien je remplacerai les sommes discrètes par les intégrales, c'est une technique habituelle qui permet de. C'est toujours plus simple de calculer des intégrales que des sommes discrètes. Donc, faisons ça. Voilà, je vais baisser un peu la lumière. Voilà, donc je vous redonne la somme discrète qu'on a à calculer ici. je passe à une intégrale sur Q avec le facteur Na sur 2pi qu'on a vu, donc les grands N vont s'éliminer. Et ce qui me reste, c'est donc cette intégrale. Alors, c'est une intégrale paire, donc plus de, moins pi sur A, je vais de 0 à pi sur A. Donc, vous retrouvez les mêmes termes qu'avant. Hein, le KBT sur Kappa était déjà là. Et puis, vous retrouvez le sinus carré QXJ sur 2. Au dénominateur, tout à l'heure, on avait oméga Q carré. Là, on va le voir, on va le justifier dans un instant. Ce qui va contribuer à l'intégrale, essentiellement, c'est les petits vecteurs d'ondes, les petits nombres d'ondes à une dimension. Donc j'ai le droit de linéariser la relation de dispersion, donc de remplacer le oméga Q, la pulsation, par C, la vitesse du son, fois Q. Donc là, comme j'avais oméga Q carré, j'ai un Q2 au dénominateur, fois l'intégrale des Q. Donc retenez bien cette forme, parce qu'elle va revenir identique à 2D et à 3D. Hein. C'est ce sinus carré QXJ sur 2 divisé par Q2 dq, fois quelque chose qui est proportionnel à la température. Alors comment calculer cette intégrale-là ? Alors, on peut la calculer exactement à 1D, mais comme le calcul exact n'est pas transposable à 2D et 3D, je ne vais pas la calculer exactement, je vais plutôt prendre une méthode qui va être généralisable à 2D et 3D, qui consiste à couper l'intégrale en morceaux et évaluer chacun des morceaux de manière approchée. Premier morceau, c'est le morceau qui est composé de grands nombres d'ondes. Qu'est-ce que c'est un grand nombre d'ondes ? Eh bien, vous voyez qu'il y a une échelle naturelle pour les nombres d'ondes qui apparaissent ici, puisque l'argument, c'est QXJ sur 2, donc l'échelle naturelle, c'est pi sur xj. Selon que mon nombre d'ondes Q est plus grand que pi sur xj ou plus petit que pi sur xj, ben, il ne va pas arriver à la même chose, ce sinus carré. Donc un grand nombre d'ondes, c'est un Q qui est plus grand que pi sur xj, ce qui veut dire, si vous voulez, en termes de longueur d'onde, c'est des grands nombres d'ondes, veut dire petite longueur d'onde, et ça veut dire que mon phonon fait beaucoup d'oscillations entre l'atome 0 et l'atome J. Donc je suis dans cette situation-là. Et quand je traite ces nombres d'ondes-là, donc la partie de l'intégrale à grand nombre d'ondes, eh bien, le sinus fait beaucoup d'oscillations, donc je peux remplacer le sinus carré par 1,5 là-dedans. Donc c'est ce qu'on va faire, on va remplacer le sinus carré par 1,5 pour cette partie-là. L'autre partie, c'est la partie des petits nombres d'ondes, c'est donc les Q qui sont plus petits que pi sur xj, donc si je vous en ai donné un exemple, c'est un phonon qui a à peine la place de faire une oscillation entre 0 et j, je peux aller comme ça vers les choses qui seront quasi plates entre 0 et J. Et là, à ce moment-là, ben, je ne peux évidemment pas remplacer le sinus par 1,5, le sinus carré par 1,5, mais en revanche, comme l'argument du sinus, lui, finalement, est petit devant 1, ou en tout cas plus petit que 1, eh bien là, je peux remplacer le sinus par son argument ou le sinus carré par son argument. Donc, sinus carré QXJ sur 2, je vais le remplacer par QXJ sur 2 au carré. Donc, je vais faire apparaître un Q carré au numérateur, qui va s'éliminer avec le Q carré du dénominateur, hein, bien sûr. C'est ça le but, c'est essayer d'éliminer une divergence potentielle en Q égale 0 ici. Donc faisons ça. Prenons ces deux membres-là. D'abord les modes de grand nombre d'ondes, et puis ensuite les modes de petit nombre d'ondes. Alors, les grands nombres d'ondes. Je vous ai dit, je remplace le sinus carré par 1,5. Donc j'avais du sinus carré sur Q2. Donc maintenant, je me retrouve à 1 sur 2 Q2 dq. Et cette intégrale, eh bien, je dois donc la prendre entre pi sur xj, qui est la valeur inférieure de ce domaine de grand nombre d'ondes, jusqu'à pi sur a. Alors l'intégrale de dq sur q2, ben, c'est 1 sur q. Je prends donc 1 sur q en pi sur a moins 1 sur q en pi sur xj. Donc c'est la borne inférieure qui va contribuer le plus. Et je me récupère quelque chose qui va donc être en kbt sur kappa a fois grand xj. Ça, c'est la contribution donc, de la borne inférieure. Ce que je vois tout de suite, c'est que dans cette intégrale, finalement, sur la partie grand nombre d'ondes, eh bien, ce qui contribue, c'est la partie inférieure de cette zone de grand nombre d'ondes, c'est les modes qui font juste une oscillation entre l'atome 0 et l'atome J. Les petits nombres d'ondes, ben, comme j'ai dit, je remplace le sinus carré par son argument, donc je vois ce QXJ carré sur 2 apparaître, les Q2 s'éliminent, et donc j'ai simplement une intégrale de dq entre 0 et pi sur XJ, fois XJ carré, donc je récupère là encore quelque chose qui est linéaire en une XJ. Donc finalement, les deux contributions de l'intégrale sont similaires, il peut y avoir des coefficients numériques devant, mais elles varient du même ordre, elles ont les mêmes lois d'échelle. Et ce que je retrouve, eh bien, c'est le même résultat que ce qu'on avait trouvé avec l'empilement de défaut. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui me dit que la variance UJ moins U0, la variance entre l'écart à l'équilibre de l'atome 0 et l'écart à l'équilibre de l'atome J, eh bien, cette variance croît linéairement avec la distance entre l'atome 0 et l'atome J, c'est-à-dire croît linéairement avec grand XJ, et par ailleurs, c'est proportionnel à la température. Donc c'est le même résultat que celui qu'on avait trouvé via la méthode de Peyers. Et le bonus de cette approche ici, c'est de voir que les modes qui sont essentiellement responsables de cette perte d'ordre à longue portée, eh bien, c'est les modes dont le nombre d'ondes vaut précisément pi sur x sur j, c'est les modes qui font environ une arge d'oscillation entre les deux atomes que j'ai considérés. Bien. On a donc résolu le problème à une dimension. À une dimension, perte de l'ordre à longue portée, perte violente, puisqu'on a ces divergences linéaires des variances avec la distance. Qu'en est-il à 2D et 3D ? Alors, à 2D et 3D, eh bien, on va pouvoir transposer presque sans modification ce que je viens de faire à une dimension. C'est-à-dire que, prenons le cas 2D, supposons que je parte d'un réseau carré. Vous verrez que les réseaux sont plutôt triangulaires à 2D, mais bon, la géométrie serait la même, c'est juste plus simple d'avoir un réseau carré, parce que les coordonnées cartésiennes ont quand même des gros avantages. Les réseaux triangulaires, on se traîne toujours des cosinus de pi sur 3 et des sinus de pi sur 3 qui ne sont pas agréables. Donc prenons un réseau carré pour simplifier la notation. Je prends un atome de référence 0, j'appelle U0 son écart à la position d'équilibre. Je prends un autre atome J, qui est donc cette fois-ci repéré par ces coordonnées Jx et Jy, donc ce que j'appelle J, c'est le couple Jx-Jy. Je prends son écart à l'équilibre UJ, et je vais m'intéresser donc à la variance de U0 moins UJ, exactement de la même façon que je l'ai fait à une dimension. Alors, tout comme on l'a fait à 1D, le plus simple, c'est de passer par la recherche des modes propres, qui vont donc être caractérisés par des vecteurs d'ondes, Q, le couple QX, QY. Si on veut faire les choses vraiment soigneusement, c'est un petit peu plus compliqué qu'à 1D, parce que les phonons à 2D ou à 3D peuvent avoir deux natures différentes. Quand je prends un phonon qui se déplace dans une certaine direction, eh bien, il peut correspondre à une vibration des atomes le long de cette direction, ce qu'on appelle une vibration longitudinale, ou au contraire, les atomes peuvent vibrer dans le plan perpendiculaire, si je suis à 3D, dans le plan perpendiculaire à la direction Q que je me suis fixé. C'est des vibrations transverses. Et a priori, on n'a pas la même relation de dispersion pour les phonons longitudinaux et les phonons transverses, donc c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'il faut introduire deux pulsations oméga Q. Bon, ici, ce qui m'intéresse, ce sont les ordres de grandeur. Je vais faire comme s'il n'y avait qu'une seule pulsation oméga Q pour les deux types de vibrations, longitudinaux et transverses, même si, en toute rigueur, il faudrait revenir à une relation de dispersion plus précise si on voulait vraiment regarder de manière quantitative comment ça se passe dans un cristal donné. Donc là, je vais me contenter de lois d'échelle sans différencier les phonons parallèles, les phonons longitudinaux, les phonons transverses. Alors, ayant dit ça, si on accepte ça, eh bien finalement, je veux dire, une transposition directe est possible, c'est-à-dire que la variance que j'obtiens pour mon UJ moins U0 carré, le déplacement de l'atome 0 et l'atome J, eh bien, ça va être quelque chose qui va toujours être proportionnel à la température, KBT sur Kappa, ça vient de l'équipartition de l'énergie appliquée à chacun des modes de phonons pris séparément, ces modes de phonons sont indépendants, donc je réapplique à chacun l'équipartition de l'énergie, donc je vais retrouver, comme à 1D, le KBT. Au dénominateur, je vais retrouver la raideur de mon potentiel kappa. Je vais retrouver une intégrale qui sera donc une intégrale bidimensionnelle, c'est ce que j'écrivais au tableau tout à l'heure, puisque là, maintenant, j'ai une somme sur qx et qy, donc je remplace ça par une intégrale sur dqx et dqy, c'est le d2q qui est ici. Mais l'intérieur de l'intégrale est inchangé, parce que l'intérieur de l'intégrale, ça vient toujours à la même chose, c'est l'argument géométrique, trigonométrique que je vous disais tout à l'heure, qui fait apparaître ce sinus carré QRJ sur 2, divisé par Q carré, qui vient de la pulsation au carré que j'ai linéarisée en supposant que mes phonons avaient une basse fréquence. Voilà, donc il s'agit de calculer ça. Alors là, eh bien, même motif, même punition, on va calculer cette intégrale en la coupant en morceaux. Donc de la même façon qu'on l'a fait pour le cas 1D, je considère les grands vecteurs d'onde, c'est-à-dire les Q qui sont plus grands que pi sur RJ. Pour ces grands vecteurs d'ondes-là, je m'autorise à remplacer le sinus carré par 1,5. Je vois donc apparaître 1 sur Q2, le 1,5 est sorti de l'intégrale. J'avais un 2 sur pi 2 qui est devenu un 1 sur pi 2 ici. Et puis, ici, j'ai un d2q, et là, c'est un point important, quand on est à deux dimensions et qu'on est en coordonnées polaires, le jacobien à deux dimensions, c'est 2 pi fois q dq. D'accord ? Donc, ce que je vois apparaître, par rapport au cas unidimensionnel, c'est une variable Q supplémentaire ici, qui va évidemment m'en enlever un de ceux que j'avais au dénominateur là. Alors, quand je fais le calcul de cette intégrale, qu'est-ce que je vois ? Donc, je vois apparaître ici l'intégrale entre pi sur RJ et pi sur A de dQ sur Q. l'intégrale de dq sur q, c'est un logarithme. Et donc, quand je prends le logarithme du rapport entre les deux bornes de l'intégrale, je vois apparaître log de rj sur 1. Le deuxième morceau de l'intégrale, dans lequel je remplace le sinus carré par son argument, au carré, donc toujours pareil, les q2 s'éliminent ici, j'ai en plus le q des q qui vient de l'élément d'intégration à deux dimensions, et donc quand je fais le calcul intégral, je vois apparaître kbt sur kappa, un coefficient numérique près. Donc si vous regardez les deux membres, ils ont le même préfacteur, kbt sur kappa, ici et là, simplement lui, il a en plus ce log de rj sur 1. Alors, je m'intéresse à des atomes qui sont loin l'un de l'autre, puisque je regarde si j'ai ou non un ordre à longue portée. Donc, a priori, je prends Rj grand devant la maille du cristal petit a, donc Rj sur a est très grand devant 1, et le log d'un nombre qui est très grand devant 1, bien, ce log est grand devant 1, disons. Le log croît très lentement, hein, ça on va avoir l'occasion de le redire. Mais disons que ce log est plus grand que 1. Donc, le terme dominant, c'est essentiellement celui-ci. D'accord ? C'est celui-là par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça, donc ? Donc, le bilan de ce calcul, et là encore, c'est un résultat que Pyols avait compris, c'est donc que la variance UJ-U0 croît de UJ-U0 est proportionnelle à la température et croît comme log de RJ sur A, avec une contribution dominante, toujours des vecteurs d'onde de Q de l'ordre de pi sur RJ, c'est eux qui donnent le RJ qui apparaît là. Donc, cette quantité-là, eh bien, elle va tendre vers l'infini quand RJ va tendre vers l'infini. Donc, la conclusion à laquelle Pyols est arrivé, c'est que, tout comme à une dimension, je n'ai pas d'ordre à longue portée à deux dimensions, puisque quand la distance entre l'atome 0 et l'atome J augmente, tend vers l'infini, eh bien la variance UJ-U0 diverge, donc même si je sais parfaitement où se trouve l'atome 0, je ne saurais pas, à l'échelle de la maille cristalline, où se trouve l'atome J, pourvu que j'aille chercher un atome suffisamment loin. Simplement, il faut quand même remarquer que cette divergence, elle est passée de linéaire en RJ sur A quand j'étais à 1D, à logarithmique quand je passe à deux dimensions. Et certes, le log de x tend vers l'infini quand x tend vers l'infini, mais ça tend très très mollement vers l'infini. Si vous prenez un kbt sur kappa, qui est de l'ordre de, je ne sais pas moi, disons a carré sur 100, hein, eh bien, si je veux que uj moins u0 carré, que cette variance soit de l'ordre de a carré, pour dire que j'ai perdu l'ordre à longue portée, si ici j'ai un centième, il faut que le log vaille 100 pour avoir perdu l'ordre à longue portée. Et pour qu'un log vaille 100, il faut que l'intérieur du log soit égal à e puissance 100. Et e puissance 100, ben, ce n'est pas peine de vous faire un dessin, c'est une échelle astronomique, ça. Donc, on arrive tout de suite à l'idée que, certes, il n'y a pas d'ordre stricto sensu à longue portée, mais néanmoins, cette perte d'ordre, elle est quand même marginale à cause du log. On sent bien que pour des échantillons de taille finie, eh bien, on peut très bien récupérer ce qui semble être un ordre cristallin, même si, encore une fois, strictement parlé, si j'allais voir très très loin, à l'échelle du système solaire ou de la galaxie, eh bien, je pourrais perdre cet ordre à longue portée. Donc, on a une situation, à cause de cette divergence qui n'est que logarithmique, on a une situation qu'on qualifie souvent de quasi-ordre à longue portée, à cause de cette divergence seulement logarithmique. Et ces logs, eh bien, vous allez voir, ils sont récurrents en physique, physique à deux dimensions. On va les retrouver très, 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 très souvent. Alors, qu'en est-il à trois dimensions ? À trois dimensions, on sait que les cristaux existent. Est-ce que l'argument que j'ai fait ici, est-ce qu'effectivement, il me permet de montrer que les cristaux existent bien à trois dimensions ? Et bien, la réponse est oui, et ça tient en quelques équations, compte tenu de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. À trois dimensions, on va refaire encore une fois le même raisonnement, c'est-à-dire qu'on va de nouveau considérant un atome 0, un atome J, on va de nouveau décomposer les oscillations de tous les atomes du cristal en mode propre, en phonon, et en revenant dans l'espace réel, eh bien, je vais réécrire mon UJ, mon U0 carré sous la même forme que tout à l'heure, toujours avec ce sinus carré QRJ sur 2 divisé par Q2. Simplement maintenant, au lieu d'avoir DQ ou D2Q comme à 1D ou à 2D, j'ai maintenant D3Q. Et D3Q, donc l'élément d'intégration à trois dimensions, le jacobien à trois dimensions, c'est Q2 dQ fois l'intégrale sur l'angle solide, et à cause du Q2 qui apparaît dans une intégrale tridimensionnelle, eh bien, le 1 sur Q2 que j'avais ici va s'éliminer. Donc je n'aurai plus du tout de divergence quand je serai à trois dimensions, et si maintenant vous calculez cette intégrale-là, c'est-à-dire vous refaites le même petit jeu que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, vous remplacez le sinus carré par 1,5, eh bien vous trouvez quelque chose qui est maintenant kbt sur kappa. Il n'y a plus du tout de facteur qui vient se mettre devant, ni le RJ sur A qu'on avait à 1D, ni le log de RJ sur A qu'on avait à deux dimensions. Maintenant, vous n'avez rien. Donc, vous avez simplement ici KBT sur Kappa. Et là, maintenant, eh bien, tout dépend de la température que vous allez prendre. Et tout dépend de la constante de raideur Kappa que vous allez choisir. Si vous avez un Kappa donné et que vous choisissez une température suffisamment basse pour que cette quantité-là, UJ moins U0 au carré, soit plus petite que A carré, la maille du cristal, significativement plus petite, disons 10% de A carré seulement, eh bien, à ce moment-là, vous n'avez pas de perte de l'ordre cristallin à grande distance. Et donc, si KBT sur Kappa est petit devant 1 carré, l'ordre cristallin peut exister même avec une portée infinie. Vous pouvez prendre un atome 0 ici, un atome J arbitrairement loin, eh bien, les UJ moins U0 carré sera petit devant A carré, le carré de la maille cristalline. Alors, de combien petit est-ce qu'il faut que cette chose-là soit par rapport à 1 ? Là, je ne le dis pas, je vous ai donné une référence dans le texte, c'est ce qu'on appelle le critère de Lindemann. Typiquement, ce qu'il faut, c'est que les fluctuations thermiques UJ moins U0, l'écart type, c'est-à-dire la racine carrée de cette chose-là, doit être, le critère de Lindemann nous dit que ça doit être entre 10 et 15% typiquement de la maille cristalline, jusqu'à ce que, à partir de là, le cristal risque de fondre. Mais disons que tant que cette chose-là est plus petite que, donc, si je veux que le carré, si je veux que la racine carrée soit de 10%, il faut que je prenne ça égal à 1%. Tant que cette chose-là est plus petite qu'à 1%, eh bien, mon cristal existe vraiment. Voilà. Donc, l'argument qu'on vient de faire, hein, on l'a trouvé à une dimension, on l'a trouvé à 2D, et il se généralise aussi à 3 dimensions, et on trouve bien qu'à 3 dimensions, les cristaux existent, on est rassuré. Donc ça nous amène au théorème de Mermin-Wagner-Weinberg, qui va être une généralisation, finalement, de ce qu'on a fait ici sur le cas particulier du cristal. Le théorème de Mermin-Wagner-Weinberg s'énonce de la manière suivante. Si vous prenez un système de dimension inférieure ou égale à 2, et des interactions à courte portée, il ne peut pas y avoir de brisure spontanée d'une symétrie continue à température non nulle. Bon, ça a l'air un petit peu compliqué comme ça, mais tous les mots ont leur importance dans cet énoncé, et je voudrais donc les commenter trois points importants du théorème de Mermin-Wagner-Weinberg. Le premier, c'est que les interactions doivent être à courte portée. Si vous prenez des interactions avec une portée infinie, à ce moment-là, que vous soyez à 1D, 2D ou 3D, la théorie de champ moyen s'applique, puisque si vous portez infini, chaque atome ou en fait une influence de tout le monde, de toute l'assemblée, et à ce moment-là, eh bien, les transitions de phase ordinaires à la Landau peuvent se produire. Donc il n'y a pas d'impossibilité de transition de phase à 1D à 2D si vous avez une portée infinie. Donc l'interaction de courte portée est vraiment essentielle. J'ai parlé ici de brisure spontanée d'une symétrie continue. C'est donc une transition de phase particulière où j'ai un système qui, à haute température, a une symétrie continue. Et je me pose la question, est-ce que quand je refroidis le système, eh bien, cette symétrie continue est brisée ? C'est-à-dire, est-ce que j'ai un ordre qui apparaît qui correspond à la brisure de cette symétrie continue ? Cette symétrie continue, ça correspond bien au cas du cristal, puisque à haute température, j'ai un fluide ou un liquide ou un gaz qui a une symétrie par invariance, par translation, une symétrie continue. Et quand le cristal se forme, je brise cette symétrie continue. Si vous prenez l'exemple du ferromagnétisme, vous prenez des aimants qui bougent de manière continue dans l'espace à 3 dimensions, ils peuvent prendre n'importe quelle orientation θ-φ dans l'espace à 3D, et quand vous refroidissez, une aimantation apparaît, et elle apparaît dans une direction donnée de l'espace, donc là encore, vous brisez une symétrie continue, qui était la symétrie de rotation de ces petits aimants. Ça s'appliquera également au cas de la condensation de Bose-Einstein, où vous avez un gaz initialement chaud qui n'a pas de phase bien déterminée. Quand vous le refroidissez, vous avez une phase macroscopique qui apparaît dans votre échantillon, et cette phase, donc, c'est une variable continue entre 0 et 2 pi, donc là encore, vous avez une symétrie continue. En revanche, si vous prenez le modèle d'Ising, par exemple, qui consiste à prendre des moments magnétiques qui valent plus 1 ou moins 1 seulement, là, c'est une symétrie discrète. Hein, les moments magnétiques sont soit pointent vers le haut, soit pointent vers le bas, mais ils n'ont pas n'importe quelle orientation d'espace. Et là, à ce moment-là, eh bien, vous avez une transition de phase à deux dimensions pour le modèle d'Ising. Donc c'est important d'avoir cet aspect symétrique continu. Et puis dernier point, la température doit être non nulle, c'est-à-dire que si vous mettez à température nulle, là à ce moment-là, vous pouvez avoir cette brisure de symétrie, c'est-à-dire qu'en particulier, le gaz de Bose à deux dimensions quantiques en interaction est condensé, on aura l'occasion d'y revenir. Donc tous les mots que j'ai mis là sont utiles, hein. Ce n'était pas juste pour avoir une phrase qui tienne sur trois lignes, tous les mots sont importants. Voilà. Bien, et bien, j'en arrive au dernier paragraphe de ce cours, qui est finalement des illustrations de ce théorème de Mermin-Wagner-Weinberg sur les cristaux, ces cristaux bidimensionnels qu'on peut mesurer au laboratoire. Et là, j'ai choisi de vous décrire des expériences récentes, en fait, au cours des 10 dernières années. Il y a eu encore une publication il y a 2 semaines par ce groupe. C'est le groupe de Maret et de Keim à Constance, qui travaillent sur des systèmes colloïdaux. C'est des expériences qui sont, je trouve, magnifiques, qui sont très jolies, qui sont faites, comme vous allez le voir, sur des petites billes. Et vous voyez ici ce qui peut apparaître dans l'état de ces billes. Donc là, c'est plutôt l'état désordonné. Vous n'avez aucun ordre à longue portée dans ces billes. Alors, comment est-ce que vous obtenez ces images-là et qu'est-ce qu'on apprend avec ces images-là? Donc, les expériences de Constance commencent de manière suivante. Vous prenez une goutte d'eau et vous la suspendez, cette goutte d'eau, c'est-à-dire que la goutte d'eau a une interface eau-air vers le bas. Alors, pour ça, la goutte d'eau est mise dans un support en verre qui est ici. La gravité va vers le bas, sur le dessin. Et simplement, par tension superficielle, cette goutte d'eau est mise à l'intérieur ici. Et avec un petit piston, on se débrouille pour que l'interface eau-air ici soit parfaitement horizontale. C'est très important que l'interface soit bien horizontale pour que les petites billes que vous allez mettre à l'intérieur ensuite n'aillent pas se mettre au fond, s'accumuler sur le ménisque de la goutte. Donc on se débrouille pour que cette chose-là soit bien horizontale. L'horizontalité se fait de manière vraiment remarquable au micro-radiant près. Ces expériences, enfin, je les ai vues il y a 2 mois, ces expériences qui sont faites sur des tables bien isolées acoustiquement pour ne pas avoir de perturbations. Maintenant, ce qui va cristalliser, ce n'est pas l'eau, ce sont des billes de polystyrène mises dans l'eau. C'est des billes qui ont un diamètre qui est bien sélectionné, 4,5 microns, et qui ont une densité qui est supérieure à la densité de l'eau, donc une densité de 1,5. Donc, elles vont s'accumuler au fond de l'eau, c'est-à-dire sur l'interface eau-air, ici. Et cette interface eau-air est donc parfaitement régulière. Hein. C'est l'intérêt de ne pas d'avoir une goutte d'eau suspendue, c'est que l'interface eau-air est parfaitement régulière. Vous n'avez pas ces petites billes de polystyrène peuvent bouger librement à cette interface, elles ne vont pas aller s'accrocher sur des défauts de l'interface, ce qui aurait pu se produire si vous aviez pris une interface entre de l'eau et puis une cellule en verre, par exemple. Donc là, l'interface eau-air, lui, est parfaitement régulière. Donc ces petites billes peuvent bouger comme ça, librement. Et il s'agit d'induire des interactions entre ces petites billes pour créer l'ordre cristallin, éventuellement. Ce serait le potentiel U de X que je vous ai dessiné tout à l'heure, qui était minimum en X égale A, et puis qui avait une constante de raideur kappa au voisinage de son minimum. Alors, en fait, ce qu'il se contente de faire à Constance, c'est de créer une interaction répulsive entre les billes. Alors, pour ça, il les dope. Il les dope avec des nanoparticules d'oxyde de fer, et il place, selon la verticale, un grand champ magnétique. Enfin, un champ magnétique variable, mais qui peut être assez important. Donc ce champ magnétique va induire un dipôle magnétique dans les billes, et les billes bougent donc dans un plan horizontal. Elles ont un dipôle magnétique qui est vertical, donc vous vous retrouvez avec des dipôles qui sont comme ça, avec un dipôle magnétique perpendiculaire à leur rayon vecteur entre 2 dipôles, donc les dipôles se repoussent. La répulsion est en 1 sur R cube, hein, c'est en mu1, mu2, mu1 scalaire mu2 sur R cube. Donc vous avez une force répulsive entre les billes. Alors s'il n'y avait pas les parois ici, les billes partiraient à l'infini, mais comme il y a des parois, les billes restent confinées. Et donc toute la question, c'est est-ce qu'elles s'ordonnent en faisant quelque chose d'ordonné ou pas à l'équipe thermodynamique. Alors pour ça, il faut regarder ce qui arrive à chaque bille. Donc on se sélectionne une fenêtre d'environ 1 mm par 1 mm. La goutte d'eau elle-même, je rappelle, a un diamètre de plusieurs millimètres. On sélectionne la zone centrale qui fait 1 mm sur 1 mm. Il y a à peu près 4000 billes dans cette zone, avec une distance moyenne entre billes de 15 microns. Je vous rappelle que le rayon de la bille, lui, est de l'ordre de 5 microns, donc les billes ne se touchent pas, hein, elles sont relativement éloignées les unes des autres, de 3 ou 4 fois leur rayon. On enregistre avec une caméra à haute résolution, enfin un dispositif d'imagerie à haute résolution, la position de chaque bille avec une précision submicrométrique, et typiquement on prend une photo toutes les secondes. Et les constantes de temps de ces manips sont vraiment remarquables, ça dure plusieurs mois, enfin plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est-à-dire que quand vous faites une perturbation, vous changez la force d'interaction entre les billes, par exemple, eh bien, il peut falloir attendre plusieurs mois, au moins un mois, pour que le système atteigne sa nouvelle position d'équilibre. Pendant ce mois-là, il ne faut pas que quelqu'un claque la porte, parce que sinon, évidemment, ça secoue les billes et il faut tout recommencer. Donc c'est des manips où il faut être patient. Hein. Donc vous prenez des photos, comme ça, et puis vous essayez de repérer des motifs, des structures là-dedans. Alors, on va rentrer plus dans les détails, mais vous voyez qu'ici, il y a des, certaines billes qui ont été coloriées, toutes les billes ont la même couleur dans la manip, mais là, certaines billes ont été coloriées pour repérer certains défauts. En particulier, vous voyez des défauts ici, comme ça, où vous avez deux billes coloriées en orange et deux billes coloriées en vert. Je vais vous expliquer dans un instant ce que veulent dire ces coloriages. Avant ça, je vous donne le paramètre de contrôle de l'expérience. Donc, on veut une transition de phase, donc ce qu'on aimerait varier, c'est la température. En fait, ce n'est pas simple de varier la température parce que les billes sont dans de l'eau, donc il ne faut pas que l'eau gèle, parce que si jamais l'eau gèle, évidemment, elles ne vont plus bouger, les billes, donc ce n'est pas intéressant. Mais heureusement, ce qui compte, comme toujours en physique, c'est un nombre sans dimension. En l'occurrence, le nombre sans dimension qui fait intervenir la température, c'est le rapport entre deux énergies. Au dénominateur, on met KBT, donc l'énergie thermique typique, et au numérateur, on met l'énergie magnétique, qui est donc l'énergie d'interaction entre mes deux dipôles magnétiques. Et ça, c'est facile à contrôler, puisque je vous ai dit que ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait un grand champ magnétique qui induisait un dipôle magnétique dans les billes. Donc, selon la valeur de ce grand champ magnétique, le dipôle magnétique induit sera différent, et donc l'énergie d'interaction sera différente. Donc, ce qu'on varie en pratique, en expérience, ce n'est pas la température, mais c'est l'énergie magnétique entre les billes en variant le champ magnétique. Enfin, ce qui compte, c'est de varier ce nombre sans dimension, grand gamma. Donc, voilà ce qu'on fait, et donc, on prend, pour différentes valeurs de gamma, on prend des photos et on regarde ce qui se passe. Alors, je vais vous décrire ici sans démonstration. La démonstration, finalement, enfin, c'est toute la transition de Kossoy-Sorlez, donc c'est ce qui va nous occuper dans les semaines qui viennent. Mais donc, je vous donne les résultats. C'est en fait un petit peu plus compliqué que la transition de Kossoy-Sorlez telle qu'on va la voir pour les gaz de Bose. C'est ce qui se passe pour les billes, vous allez le voir, est plus riche, finalement. La théorie de Kossoy-Sorlez a été complétée quelques années après. Kossoy-Sorlez, c'était en 73. Ça a été complété entre 75 et 79 par Halperin, Nelson et Young. Donc on parle de théorie KT HNY pour ça. C'est ce qu'on va voir, donc c'est ce que je vais vous décrire. C'est un scénario qui a donc été validé par ces expériences-là et d'autres expériences faites antérieurement. Il y a aussi eu des simulations numériques qui ont été assez controversées, mais qui maintenant, je crois, ont bien convergé. Et le scénario est donc le suivant. Donc, à température nulle, ou si vous préférez, un rapport gamma infini, ici, eh bien, on obtient un cristal triangulaire parfait si on néglige les fluctuations quantiques. Mais là, on a affaire à des objets macroscopiques, donc, a priori, il n'y a pas de fluctuations quantiques. Même si Yves Couder va nous décrire tout à l'heure des expériences faites en physique macroscopique, on a l'impression qu'il y a des choses quantiques qui se passent. En tout cas, là, pour ces manipsi, à température nulle, on attend et on trouve un cristal triangulaire parfait. À très basse température, donc, ce qu'on attend, c'est les fluctuations logarithmiques à la Pyrrhus, c'est-à-dire ce quasi-ordre translationnel qu'on a trouvé ensemble, cette variance entre la différence UJ moins U0, qui croît logarithmiquement avec la distance entre les deux points. Alors ça, on a vu ensemble que c'était lié au phonon. Hein. Il y a également, dans ces systèmes de petites billes, il y a également quelques défauts locaux qui n'ont pas d'importance sur ce comportement à longue portée. C'est un petit peu comme les paires de vortex que je vous décrivais tout à l'heure, les paires de vortex, vortex plus, vortex moins, très proches l'une de l'autre. Je vous disais que si on prenait une moyenne à gros grains, finalement, on pouvait oublier ces paires de vortex. Là, c'est un peu pareil, enfin, c'est même pareil. Il y a des défauts locaux, mais qui ne sont pas bien graves. Un défaut local, c'est représenté comme ça. Vous voyez, quand vous avez un cristal triangulaire, comme celui que j'ai dessiné, a priori, chaque site a 6 voisins. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais il peut se produire qu'une liaison que j'avais entre ce site-là et ce site-là, donc un trait horizontal ici, disparaisse parce que ces deux atomes-là se sont rapprochés. Et du coup, je me retrouve avec ces atomes, celui-ci et celui-ci, qui se trouvent plutôt avec 5 voisins, 5 et 5 ici. Et ces deux-là, du coup, ont gagné un voisin, donc 7 et 7. Donc c'est ce que j'ai écrit comme ça, un 5, 5, 7, 7. C'est un petit défaut local qui n'a pas d'importance, comme je disais, sur le quasi-ordre à longue portée, c'est-à-dire que même en présence de ces défauts, je garde cette divergence de la variance qui n'est que logarithmique avec la distance. Une chose qui n'était pas dans le traitement qu'on a fait en suivant Pyrrhus, mais qui est bien présente ici, c'est qu'il y a un ordre orientationnel. L'ordre orientationnel, ça consiste à regarder comment sont orientés les côtés d'un triangle. Donc là, avec ce que j'ai pris ici, vous voyez, j'ai un triangle qui a un côté horizontal, et puis les deux autres côtés sont à plus ou moins 120 degrés par rapport à ça. Eh bien, si vous suivez cet ordre orientationnel, qui encore une fois n'était pas décrit dans le formalisme qu'on a fait ensemble tout à l'heure, et qui n'est pas inclus dans Mervyn Wagner, eh bien cet ordre rotationnel reste à longue portée. C'est-à-dire que si vous allez regarder très très loin par ici, hein, eh bien vous verrez que les triangles restent orientés comme ça, avec un côté horizontal et puis les deux autres à plus ou moins 120 degrés. Voilà. Donc c'est quelque chose qui vient en plus de ce quasi-ordre translationnel qui lui est bien décrit par Mervyn Wagner. Je réchauffe mon système, ou si vous préférez, je baisse l'énergie magnétique, donc je baisse le paramètre gamma m, et pour une valeur bien précise du paramètre gamma m, en l'occurrence de l'ordre de 70, eh bien, on voit apparaître une transition de phase que vous pouvez voir comme un équivalent de ce que je vous ai dit tout à l'heure quand je vous parlais des vortex plus et moins qui s'écartaient, qu'on retrouvera dans les cours prochains. Eh bien là, ce qui se passe, c'est que les défauts que j'avais tout à l'heure, qui étaient finalement un quadruplet, 7-7-5-5, eh bien ces quadruplets se dissocient. J'ai un doublet 7-5 qui part d'un côté, un doublet 7-5 qui part de l'autre. Donc je me retrouve avec des doublets 7-5. Et un doublet 7-5, eh bien, en voilà un exemple ici d'un défaut de ce type-là, où vous avez ici donc, un site qui a 7 voisins et un site qui en a 5. Et si vous regardez bien cette figure, eh bien, cette figure-là, ça correspond à l'ajout d'une demi-ligne d'atomes. Alors, je ne sais pas si ça vous saute aux yeux, mais si ça ne vous saute pas aux yeux, voilà quelque chose qui peut vous aider. Si vous suivez maintenant les bords des triangles, vous voyez, ce bord-là, je le suis comme ça, ce bord-là, je le suis comme ça, et puis la ligne intermédiaire, elle, au niveau du défaut 7-5, eh bien, elle bifurque pour devenir deux lignes. Alors, dès que vous avez quelque chose comme ça qui apparaît, vous perdez complètement le quasi-ordre logarithmique translationnel. Et ça, ça se comprend assez aisément, parce que dès que ces choses-là peuvent apparaître, eh bien, la distance entre deux atomes, l'atome 0 et l'atome J, va être très très sévèrement affectée. C'est-à-dire que si je prends la distance entre cet atome-ci et cet atome-là, si je ne me trompe pas, il y a 6 segments, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et si je vais regarder de l'autre côté de la ligne, celui-ci et puis celui qui serait dans le prolongement, là, ben, je vais me retrouver avec 7 segments et pas 6. Donc le fait de pouvoir ajouter et enlever de manière aléatoire des demi-lignes comme ça, d'atomes dans mon système, ça va complètement me brouiller le quasi-ordre à longue portée, et du coup, je perds complètement ce logarithme que je remplace par quelque chose qui est beaucoup plus violent. Donc, on perd, quand on voit ça, le quasi-ordre translationnel. Et ça, c'est vraiment le mécanisme de Kossuth-Sowles qui est à l'œuvre. C'est partant de défauts qui, a priori, étaient appariés, qui étaient ces quadruplets 7-5-7-5, eh bien, en les dissociant, vous voyez que je fais subir quelque chose de violent à mon système, et ce qui n'était pas trop méchant, qui était ce quasi-ordre, cette croissance logarithmique des variants, de la variance UJ-0, eh bien, va devenir beaucoup plus tragique du fait de ces fluctuations liées aux demi-lignes que j'ajoute. Alors, l'ordre rotationnel subsiste, ou en tout cas, il devient un quasi-ordre, c'est-à-dire que même quand vous mettez une demi-ligne comme ça, vous voyez que, finalement, je ne perds pas complètement l'orientation des triangles. Si je vais me mettre loin ici, ben, je récupérerai des triangles qui seront à peu près avec un côté horizontal, de la même façon que je l'ai ici. Donc, on garde un quasi-ordre, et cette phase qui a donc été découverte à l'occasion de ces études KTHNY est appelée phase exatique. Et puis, si vous allez en température encore plus élevée, ou si vous préférez un paramètre gamma plus faible encore, donc la première transition est aux alentours de 70, et aux alentours de 67, vous avez encore une autre transition, où là, cette fois-ci, les paires qui me restaient, les paires 7-5 qui me restaient, se dissocient. Vous vous retrouvez avec un défaut de type 7 et un défaut de type 5, donc un atome isolé qui a 7 voisins, un autre atome isolé qui a 5 voisins, et ça, eh bien, c'est ce que vous voyez ici. Et là, alors à ce moment-là, ben, vous perdez même l'ordre orientationnel, puisque quand vous avez comme ça un atome à 5 voisins, vous voyez que l'orientation ici, à gauche de ce site, n'est pas du tout la même que l'orientation à droite, qui est une rotation par plus pi sur 3, mais ici, l'orientation sera de moins pi sur 3, et donc si vous mettez ces défauts de manière aléatoire, là, vous perdez tout ordre, et la phase que vous obtenez, c'est vraiment un liquide à ce moment-là. Voilà, donc ça, c'est vraiment les scénarios tels qu'ils ont été compris et observés dans ces expériences faites avec des microbilles. Alors, pour terminer, je voudrais dire un mot du graphène, parce que le graphène, finalement, c'est probablement le matériau bidimensionnel auquel tout le monde pense quand on se dit « est-ce qu'il y a des cristaux à deux dimensions ?» Ben, on a tous entendu parler du graphène, ces feuilles de carbone formant un réseau hexagonal. Et donc, quand on voit ça, eh bien, on peut se demander comment est-ce que finalement l'existence même du graphène est compatible avec le théorème de Mervyn Wagner-Wenberg. Alors, il y a deux réponses dans la littérature. C'est Ces deux réponses ne sont pas incompatibles l'une avec l'autre. Une qui est plutôt pratique et l'autre qui est plus fondamentale. La réponse pratique, c'est que si vous prenez la raideur des liens qui existent entre les atomes de carbone adjacents dans le graphène, cette raideur est très élevée, donc le coefficient KBT sur Kappa que j'ai vu apparaître est tout petit, et du coup, si vous regardez sur quelle échelle de distance est-ce que le logarithme va devenir significatif, bien vous trouvez des échelles de distance qui sont très très longues. Je donne des références dans les notes pour tout ça. Donc du coup, comme finalement avec le graphène, on a affaire toujours à des échantillons qui sont de taille pas très grande, c'est de l'ordre de, ça dépasse, enfin c'est quelques microns, quelques dizaines ou centaines de microns, pas plus. Eh bien, finalement, sur ces échantillons de taille finie raisonnable, eh bien, on peut voir un ordre cristallin sans pour ça être en contradiction avec le théorème de Mermin-Wagner. Simplement, le théorème de Mermin-Wagner ne s'appliquerait qu'à des échelles de distance beaucoup plus grandes. Donc ça, c'est le premier type de réponse qu'on voit dans la littérature. Deuxième type de réponse, encore une fois non contradictoire avec le premier, c'est le fait que le graphène, finalement, n'est pas à vraiment parler un système bidimensionnel. C'est-à-dire que une feuille de graphène explore l'espace à trois dimensions. Si elle est libre, cette surface de graphène est plissée. Et le fait que la surface se plisse fait que vous avez des fluctuations de hauteur. En même temps, vous avez les phonons qui sont les déplacements parallèles à la surface. Vous avez des fluctuations de hauteur. Et ces fluctuations de hauteur, si vous allez regarder les termes non linéaires, se couplent aux phonons. Et le couplage entre les fluctuations disons, verticales et les fluctuations horizontales, pour parler vite, entre les fluctuations de hauteur et puis les fluctuations parallèles à la surface, eh bien, ça vient vous mettre une composante effective à longue portée entre deux atomes qui sont ici, par exemple, et là. Et dès que vous mettez une composante à longue portée, eh bien, le théorème de Mervyn-Wagner ne va plus s'appliquer, ça je l'ai déjà dit. Et donc, du coup, il y a toute une série d'articles qui disent que finalement, il ne faut pas du tout être inquiet, même sur le plan formel, avec le théorème de Mervyn-Wagner pour le graphène, parce que vous avez de toute façon, de manière effective, une interaction à longue portée du fait de ces couplages qui font que le théorème ne s'applique pas. Mais même s'il s'appliquait, de toute façon, je crois que vu la taille des échantillons, on n'a pas non plus à être inquiet. Voilà, donc le graphène subsiste indépendamment de ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, je conclue sur ce cours. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est quoi ? C'est donc, on a vu en détail le résultat de Peierls. Je vous ai donné sa généralisation par Mervyn-Wagner et Hohenberg. Je n'ai pas fait la démonstration générale du théorème de Mervyn-Wagner qui prendrait presque une heure et demie à elle toute seule, parce qu'elle est quand même assez formelle, c'est des maths pas simples. J'ai donné des références dans les notes, mais disons que une fois qu'on a compris comment ça se passait pour les phonons dans un cristal, je dirais on a eu l'essentiel de la physique. La conclusion, c'est la suivante. À température non nulle, il n'y a pas d'ordre translationnel en dimension réduite à longue portée. C'est la contribution des phonons qu'on a regardée aujourd'hui, c'est elle qui est dominante à basse température. Et ce qu'elle nous donne, cette contribution des phonons, c'est donc une décroissance rapide des corrélations linéaires en distance à une dimension, une décroissance lente des corrélations logarithmiques à deux dimensions. Et on parle de quasi-ordre. À plus haute température, là je n'ai rien dit, enfin j'ai énoncé ce que Kosselitz et Saoulès avaient proposé, mais c'est ce qui va nous occuper dans tous les cours de cette année, mais on a vu sur les expériences faites à Constance, sur ces cristaux à deux dimensions, que ce qui se passait, c'est qu'on avait des dissociations de défauts locaux qui, dans les cristaux, étaient du type 7-7-5-5. Et une fois dissociés, eh bien, ces défauts détruisent complètement l'ordre translationnel, c'est-à-dire que le log qui est là est remplacé par quelque chose qui va diverger beaucoup plus vite. Une chose que je n'ai pas abordée, c'est fait dans les notes que vous avez à votre disposition, mais qui jouera un rôle, probablement Thierry Giammarchi reviendra là-dessus en détail dans son séminaire, c'est ce qui se passe à température nulle, dans le cas quantique. Alors, à température nulle, dans le cas classique, ben là, c'est simple. À température nulle, dans le cas classique, je mets tous mes atomes à une distance A, que je sois à 1D, 2D ou 3D. Si maintenant, je suis dans le cas quantique, c'est-à-dire si je traite quantiquement le mouvement des atomes, j'aurai même à température nulle des fluctuations quantiques. Et c'est assez intéressant de regarder ces fluctuations quantiques. Le formalisme est exactement le même que celui qu'on a vu. Simplement, partout où vous aviez KT, ben, il faut remplacer ça par H bar fois quelque chose pour être à température nulle quantiquement. Et en particulier, ce qu'on voit 1D à température nulle, eh bien, c'est la chose suivante. C'est que la variance qui est ici, qui, à température non nulle, divergeait linéairement avec la distance, eh bien, elle ne diverge plus que logarithmiquement. avec un préfacteur qui fait donc intervenir la constante de Planck h bar sur m oméga. Encore une fois, je me suis mis à température nulle. Oméga, c'est racine de kappa sur m, où kappa est la raideur. Donc là, on entrevoit un résultat, qui est un résultat remarquable. Encore une fois, Thierry Giammarchi probablement reviendra dessus. Peut-être qu'Isabelle aussi en parlera, Isabelle Bouchoux en parlera dans son séminaire sur les gaz 1D. C'est un résultat qui finalement fait un lien entre un système quantique en dimension D à température nulle et un système classique en dimension D plus 1 à température non nulle. Donc le système quantique A1D à température nulle a finalement un comportement très voisin du système classique A2D à température non nulle. Vous avez la même loi logarithmique. Alors ce n'est pas un théorème au sens strict du terme, mais c'est néanmoins une équivalence profonde entre ces deux types de systèmes. Et là encore, je donne dans les notes écrites une référence vers un article qui essaie de formaliser ça, au moins sur certaines classes de systèmes, cette équivalence t égale 0 en dimension d, t est différent de 0 en dimension d plus 1. Voilà, donc je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Dès la semaine prochaine, on va entamer vraiment ce qui se passe pour un gaz de Bose en dimension 2. Donc on verra d'abord le gaz parfait, puis le gaz en interaction, et le mécanisme de Kosterlitz-Staules. Et je vous rappelle le séminaire, donc, d'ici un quart d'heure, enfin, on commencera à 11h15, le séminaire d'Yves Couder sur cette dualité onde-particule à échelle macroscopique. Je vous remercie pour votre attention. Merci.